Qu'est-ce qui manque à l'équipe? Presque rien.
Bonjour, bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce VisioTube spécial le jour d'après. Le point pris par le Racing. J'introduis rapidement l'équipe parce que ça va être un truc hyper dynamique, hyper Twitter, hyper réseau. JP Larky, spécialiste réseau.
Blourg.
Voilà, Blourg à toi aussi. Father Tom est là aussi depuis sa bibliothèque.
Exactement, très très fourni. Elle le sera encore bientôt plus avec Crimerie et Châtiment.
Voilà, première publicité, bam, c'est parti, magnifique. Merci à toi. Le Stoub vient de nous verser 1000 euros. En parlant de Stoub, c'est l'expert, c'est le plus grognon en ce moment sur Racing Stoub, c'est Kittel.
Ouais, bonjour à tous et bonjour à Clément, une petite dédicace.
Ah, il y a en plus des fans. Et Clément, tu as gagné ton exemplaire de Crimerie et Châtiment, dédicacé par Thierry Loret. Et il nous reste, alors ça faisait longtemps qu'on l'a pas eu dans Radio Stoub, il est en ce moment confiné dans les Vosges, Ross 3.
Hello girl.
Bravo. C'est aussi ça Radio Stoub, c'est les fans, le fan numéro un qui est aussi chroniqueur. C'est génial, tout le monde s'aime, tout est magnifique.
On dépasse les frontières.
Le Racing n'a pas perdu, ou alors si il a perdu à Montpellier, comme prévu dans le plan, hein, comme nous racontait Rouliane, défaite à Montpellier sur le score de 4-3, et malgré bien sûr qu'on ait fait semblant de pouvoir tenir un score pendant tout le match. Donc tout le monde a vu le match, je pense.
Oui.
Oui, tout à fait.
Ah oui.
Alors, moi, la question qui est un peu mon avis en même temps, c'est est-ce qu'on a le droit de perdre un match quand on reçoit deux pénaltys et qu'en plus, quand on ne marque pas le pénalty, l'arbitre, il le fait quand même retirer Kenny Lala pour être sûr qu'on mette un but?
Ben, on a le droit de le perdre et on le perd quand on commet autant de fautes qui amènent autant de buts, quoi. Donc, je dirais que c'est assez logique, finalement, ce qui s'est passé. Montpellier a bien joué le coup, nous on a fait des erreurs, mais malgré cela on s'est quand même, on a marqué trois fois, on s'est créé des situations, des occasions, mais c'est encore des erreurs défensives qui nous plombent, quoi, comme d'habitude, des oublis de marquage, des choses qui depuis le début de saison sont un peu trop récurrentes.
Ben, je pense que ça aurait pu finir en 12-8 s'il y avait eu 100% de réussite. Parce que Montpellier a aussi loupé quelques occasions. Le Racing a loupé la toute première avec Ajorc. Ça aurait pu vraiment lancer le match parfaitement.
C'était plus le même match.
Il y a eu une nouvelle occasion loupée d'Ajorc en deuxième mi-temps. Il y a eu la tête de Diallo. Donc effectivement, si on chiffre, ça fait beaucoup d'occasions. Ça c'est à comparer avec le début de saison où on était incapable de franchir les 20 derniers mètres, ou même le match contre Marseille, hein, où on était absolument inoffensif. Donc ça manifeste un petit progrès, même si c'est évidemment largement insuffisant.
Et prendre 4 buts contre Montpellier, c'est quand même pas tous les jours.
Ah, c'est pas tous les jours. Maintenant, on a vu les raisons qui ont amené les buts, quoi. On a vu un Kawashima pas franchement hyper convaincant sur ce match-là, notamment sur la tête de Delors qui est quand même assez lointaine, et on le sent pas trop adepte des sorties aériennes, enfin en tout cas pas sur la profondeur du terrain. Et puis on a payé beaucoup, je dirais, des oublis de marquage. Si Macan était pas forcément toujours dans les bonnes zones, enfin il y a eu un gardien pas au rendez-vous, et de l'autre côté des défenseurs qui étaient un petit peu trop justes, quoi, techniquement dans leur domaine. Donc ça explique pourquoi on a pris autant, mais après Montpellier a bien joué aussi, faut le reconnaître, et puis mais on aurait pu s'en sortir. On aurait pu faire mieux, clairement. C'est frustrant.
Tu penses que c'est plutôt un mauvais résultat, alors que certains ont dit bon, on aurait dû perdre même 4-1 si, euh, s'il n'y avait pas eu un peu la chance des fautes provoquées. En fait, même les Montpelliérains disent on a pris des buts sur des erreurs. Enfin, ça, c'est un peu con parce que nous aussi, on prend des buts sur des erreurs. S'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas vraiment de but.
Bah ouais, moi je pense que très franchement c'est un mauvais résultat déjà parce que c'est une défaite et que finalement même si on joue bien, alors je sais bien que le contenu, le jeu, on attend à la fois la victoire et à la fois le jeu. Là on perd et dans le jeu c'est vrai que Montpellier a montré de bonnes choses. Maintenant on a manqué de réalisme quoi devant, c'est vraiment dommage. Là où Diallo il a un but offert sur sa tête, ben Delors sur une tête lointaine il est précis, il trouve le petit poteau, enfin le petit filet, il trouve un bon angle et voilà. Et c'est la différence entre un attaquant comme Delors qui est très réaliste et puis Diallo qui manque les occasions de tuer l'adversaire quoi.
Je suis complètement d'accord, hein, parce que vous savez, moi, c'est la technique. Donc, j'ai un peu regardé chaque occasion, d'où elles étaient tirées, d'où elles avaient lieu. Et en fait, de manière assez étonnante, nos occasions à nous étaient dans des endroits bien plus chauds en termes de distance par rapport au but, etc., que les occasions de Montpellier. Et en particulier, tu as cité l'action de Diallo, mais c'est pas la seule. Et en fait, ce qui est incroyable quand on regarde ce genre de truc, c'est que on a moins d'occasions que Montpellier. Faut pas déconner, on en a trois fois moins quasiment. Mais en revanche, nos occasions sont bien plus dangereuses. Et pourtant, on perd. Et je sais pas, je peux pas l'expliquer.
Donc sur les expected goals, Gibelarki, là, t'as pas de.
Ah bah sur les expected goals, on les explose. Hein. On a 3,4 et ils sont à 2,5.
Ah ouais.
Donc parce que leurs occasions, elles sont dans des endroits. Mais comme tu dis, la tête de l'autre, elle est super loin. Il est loin en fait. Là où il y a plus personne à droite.
Et Alain Delors.
Voilà. Et donc ouais. Donc c'est vraiment, on a un truc d'efficacité qui est assez fou quoi.
Problème de gardien sur le match là, ouais. Mais je trouve qu'il se croirait à l'entraînement un peu. Je sais pas, il est pas trop pro quoi.
Bah, en même temps, il a pas 50 matchs dans les jambes, quoi. Enfin, je veux dire,
il a l'expérience quand même.
Oui, il a l'expérience, hein, ouais, bah bon.
Ouais, mais l'expérience, quand ça fait 3 ans que tu joues un match tous les 8 mois.
Donc, Montpellier, ouais, bon, on va dire. Après, est-ce que quelqu'un a souvenir d'une victoire à la Mosson dans les 20 dernières années? Moi, à part la fin des années 90,
Mouma, on n'a plus. Hein? C'est pas avec Mouma, on gagne pas là-bas. Oui.
Voilà, si, mais c'était fin des 90, donc génération 2000.
Putain, oui, c'est vrai.
On a joué souvent et on a rarement été récompensé à Montpellier. Donc l'un dans l'autre, en plus Montpellier qui est une équipe qui est costaud quand même, on peut se dire que c'était pas catastrophique. Thierry Lauret n'était pas menacé à ce moment-là.
Cette année, Montpellier sont pas mal à la maison. Hein.
Oui, sûrement.
Non, mais Montpellier, effectivement, c'est une bonne équipe. Je me rappelle, il y a 3 ans. Quand on est revenu en D1, il y avait, enfin, on disait Montpellier, purée, Der Zakarian, ce fichier, c'est un entraîneur ultra défensif, il restait sur son passage à Nantes. Et en fait, là, en incorporant des joueurs un peu de meilleure qualité, l'abord des Delors sont quand même très très intelligents. On a l'impression qu'ils pouvaient se débrouiller tout seuls dans n'importe quel système. En plus, là, ils sont soutenus par Mollet et Savanier.
Mollet et Savanier, surtout au milieu, ouais.
Ouais, donc ils se retrouvent avec un Montpellier qu'on décrivait comme une équipe dégueulasse il y a peu de temps, et maintenant ils sont presque beaux à avoir joué.
C'est une équipe super efficace, effectivement, quand on regarde leur. Ils ont beaucoup plus de buts marqués que ce qu'ils auraient dû au regard de leurs occasions.
Et puis ils recrutent bien. C'est vrai que les additions de Mollet, de Savanier, c'est des joueurs qui ont fait des bonnes saisons en Ligue 1. Mollet, il était bon à Metz, Savanier, il était bon avec Nîmes. Laborde, il était un peu plus en difficulté à Bordeaux, mais c'était un bon footballeur aussi. Et du coup, voilà, ils recrutent bien, ils évoluent bien. Là, il y a Hilton qui joue un peu moins, donc il a une défense à 4 qui il trouve les bonnes formules et ça bosse bien à Montpellier, c'est clair. C'est un club. Non.
Je sais par exemple, pour prendre l'exemple de Mollet, c'était un joueur que le Racing avait dans le viseur. Il me semble que même Thierry Lauret, quelqu'un avait dit que c'était un mec qu'il aurait bien voulu faire venir. Il y a Eshou Afni sur le Stoub, hein, donc pas Olivier, hein, mais le Stoubiste, qui a partagé un article, l'interview du directeur sportif de Montpellier.
Carotti,
voilà, cherchais. Carotti qui disait « on a passé un cap financier ». Et il disait « on a pu, grâce avec ce cap financier », hein, puisque Montpellier est stabilisé maintenant depuis que nous on est passé aux oubliettes, ils sont stabilisés en première division. Ils ont pu passer ce cap financier et s'offrir des joueurs peut-être d'un niveau plus, des joueurs qui font la différence. Bah là, c'est ce qu'on dit, Delors, un joueur qui a un peu un niveau plus et qui peut faire la différence, genre un peu à lui tout seul, justement en marquant des buts là où forcément nos joueurs qui ont la bonne occasion n'arrivent pas à le mettre. Lui, il a une demi-occasion et il le met. C'est le petit plus qui fait que Montpellier est dans la première partie du tableau, dans le premier tiers, et que nous, on est dans le dernier.
Ils ont aussi des ventes, enfin ils arrivent à fructifier leur effectif. Ils avaient Lecomte et Aguilar, qui se retrouvent en équipe de France maintenant. Et qui sont partis à Monaco.
Et nous aussi, on vend les joueurs à Monaco.
Ouais, nous aussi, on a des joueurs en équipe de France.
Qui ça?
Pas la dernière pré-convocation, mais Lala, bon, j'étais pas loin. depuis le fameux match où Lala a été observé, ça, les choses vont mal.
Ah, c'est le problème, hein, c'est que dès qu'on les observe, du coup, ils vont plus en équipe de France, quoi.
Mais ils ont peur d'y aller.
Je remarque quand même sur ce match, c'est le match où il y a le plus de buts marqués en première mi-temps de toute la première division depuis l'an 2000.
À égalité.
Le passage à l'euro.
Et on en parlait à l'instant, au moins Mollet a pas marqué. Parce que contre nous, normalement, il marque.
Mais c'est un match assez symptomatique, hein, du vrai problème que l'on a. Alors, bien sûr que dans le jeu, offensivement, ça pourrait être mieux et que Montpellier a bien joué, mais on a toujours des lacunes défensives, quoi. C'est ce qui nous plombe. On est la dernière attaque et on est la dernière défense et on est la 12e attaque, quoi. Et franchement, c'est une constante. On prend beaucoup beaucoup trop de buts, quoi.
Donc du coup, on reste sur cette. Donc c'est, rappelez-vous, il est dimanche soir, le Racing vient de perdre. Moi personnellement, je noie mon chagrin dans l'alcool, hein, et en regardant la plus mauvaise équipe du monde, qui est une émission belge, qui est où ils entraînent la plus mauvaise équipe du monde, qui ressemble un peu au Racing. Hein. Et donc la semaine est terrible. Thierry Loret assailli de tous les côtés, le coup de poignard dans le dos. Hein, par son propre fils Sébastien Keller, hein. Et donc là il y a vraiment le clash de toute la semaine, Sébastien Keller contre Thierry Loret.
Il est pris en étau entre les Keller, quoi.
Voilà, exactement. le fameux sandwich Keller.
Le Mac Keller, c'est exactement ça.
Et donc voilà, là Thierry Loret, il est clairement sur toute la semaine, la presse quotidienne régionale et la presse national annonce que Thierry Loret il est à deux doigts de sauter, genre et Marc Keller à la
guillotine
sur la gâchette, et si on bat pas Rennes, il dégage, quoi.
Mais ça c'est un peu vrai, non, parce que on l'a entendu un peu partout, c'est pas que forcément les DNA, ou il me semble qu'il y avait quand même un coup de pression sur Thierry Loret là pour Rennes, non,
sur le journal L'Équipe, ou apparemment c'est ce qu'ils avaient dit après Rennes.
Mais je sais pas, non. Mais L'Équipe, tout ça, ça lit les DNA aussi, et je sais pas si c'est vrai. Vraiment...
Apparemment, il y a un reporter de L'Équipe qui est spécialement à Strasbourg, ouais.
Ah oui?
Après la conférence de presse, ouais, où Loret s'est énervé après le gars des DNA, là. Et c'est après le gars des DNA ou Godin qui s'est énervé?
Non, Keller, des DNA.
C'est Luc Agege ou Agege ou un truc comme ça, non? Le gars de L'Équipe, justement, qui était présent et aussi visé?
Ouais. Je sais pas son nom, mais j'en ai entendu.
Mais attends, parce qu'il s'est énervé après Montpellier, comment il s'appelle, Thierry Loret, déjà, à la conférence.
Oui, il était un peu chafouin à l'interview d'après-match.
Ouais. Mais il s'énerve souvent, quand même.
Il s'est énervé bien après Montpellier. Hein.
De quoi?
Il s'est bien énervé après Montpellier. Hein.
Oui, c'est ça. Et je sais pas si là, il s'est énervé contre Keller et ou Agege ou les deux. Mais il me semble que, j'ai peut-être une connerie, hein, mais dans la conférence de presse d'après-match de vendredi, il s'en prend à Keller.
Oui,
j'ai énervé après Montpellier, ouais. Il sort même à Keller, de toute façon t'as écrit dans ton journal que j'allais te virer et tout, tu dois être content, machin et tout. Et moi je savais pas que c'était Keller, je croyais que c'était Godin, moi.
Alors bon, du coup l'avantage c'est que c'est un peu ce qu'on appelle la technique de Aulas, hein, c'est-à-dire qu'il focalise toute l'attention sur lui, hein. Parce que là, on a presque, mais dans le journal, on parle presque pas de Kawashima qui est aux fraises, ou de Ajork et Diallo qui sont pas foutus de mettre des buts, comme on l'a analysé nous, parce que nous on n'est pas dans l'émotion, on est dans l'analyse. Donc. Mais c'est quand même une semaine un peu cataclysmique. Alors je sais pas vous autour de vous, mais tout le monde un peu veut la tête de Thierry Loret, quoi. C'est.
Autour de moi, ouais. Autour de moi, il y a trop de gens qui m'aiment, qui tournent autour de moi. Mais en plus, oui, il y a énormément de gens qui demandent la tête de Thierry Loret. Alors, moi, personnellement, je suis complètement contre ces gens. Mais je vous laisse discuter. Moi, je pense qu'il faut garder Thierry Loret. Probablement jusqu'à la mort. J'ai envie de dire Thierry Loret till I die. Allez-y, vous.
Mais ce qu'il y a là, c'est que la semaine était très courte. Dimanche, on joue. Lundi, on s'entraîne. Et déjà, le match est vendredi. Donc, effectivement, ça a pu créer un feuilleton journalistique que les DNA ont voulu haletant en disant voilà, les choses vont mal, il y a trop de défaites qui s'accumulent. Et en fait, c'est un peu les DN qui ont posé leur ultimatum en disant s'il n'y a pas de victoire, Loré va sûrement sauter.
Bah c'est, oui, mais ça, c'est toute la question. Est-ce que c'est un ultimatum inventé par les DNA ou il y a vraiment un truc que Marc Keller fait?
Bah non, mais Keller le vrai. Keller, Marc, ne s'est pas du tout exprimé, hein, fidèle à sa communication parcimonieuse. Donc, lui, il a rien dit. Donc, c'est un peu Sébastien Keller qui a, au fur et à mesure, fait monter sa mayonnaise.
Donc, c'est de la merde. C'est bien ce que je pensais.
Donc, disons, moi, au début de semaine, quand on a commencé à lui tomber dessus, je me disais, mais bon, ce qu'il écrit n'est pas déconnant. Si on est à 9 défaites, forcément, tout entraîneur est mis en difficulté. Donc, on se dit, mais il écrit ça, est-ce qu'il a vraiment des sources? Est-ce qu'il a des infos? Ben non, il a rien du tout. Mais il pressent que s'il y a une défaite encore, voire une non-victoire, ça sentira mauvais pour Loré.
Enfin, moi, j'ai du mal à imaginer Marc Keller, quand même, qui est la définition même de la discrétion de manière générale, commencer à s'épancher dans les bureaux, à dire « Ouais, de toute façon, après Rennes, si on perd encore, vous faites le nécessaire, machin chose, ou on va passer à l'action. » Je vois pas ce genre de communication interne où la fuite, il y aurait des fuites derrière, je pense. Ça me semble aussi être une forme de spéculation où... Et dans cette spéculation, j'y vois, pour moi, c'est un règlement de compte. Je sais pas ce qui s'est passé exactement, si c'est des demandes d'interview pas accordées, si c'est des conférences de presse où il y a une blessure d'ego ou j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai du mal à comprendre ces prises de position et ces spéculations, quoi.
Et est-ce que c'est une, c'est pas. Ça a aucun rapport avec la petite crise de nerfs des journalistes sur le fait que, ils peuvent pas assister aux entraînements comme ils voudraient, accéder aux joueurs. Si, c'est en rapport ou pas?
Ça fait partie, parce que c'était Keller qui a signé le billet d'humeur en disant, ouais, ça va pas, les journalistes sont un peu mis à l'écart, il y a la tentation du repli. Et là, à l'époque, je me suis dit, ce papier n'est pas déconnant, parce que c'est de réel, peut-être d'inconscient, quand ça va mal, on se ferme un petit peu et on enlève ce qui est accessoire. On considère que les relations avec la presse sont moins indispensables. Et ouais, je pense qu'il l'a mal pris ensuite. Mais oui, bon, ce sont des querelles de bac à sable.
Et enfin, c'est ça, parce que le club, il doit absolument rien au DNA. Je veux dire, les DNA, ils ont leur accès médias normaux, comme tout le monde. Ils peuvent accéder aux matchs, ils peuvent, comme nous, on pourrait pas, d'ailleurs, à ce propos, pas comme tout le monde. S'ils veulent parler aux joueurs, il faut le faire par téléphone. Oh mon Dieu, c'est vraiment horrible. Si les joueurs ont pas envie de leur parler, ils leur parlent pas. Ils ont le droit à rien, les DNA. Il y a pas de raison qu'ils aient un accès. Moi, je comprends pas. C'est les mêmes histoires avec l'équipe journal et l'équipe de France quand ça va pas. Et entre l'entraîneur et l'équipe et tout. Je pense que les journalistes là, pour le coup, ils s'arrogent des droits qu'ils ont pas et ils s'offusquent de pas avoir accès à des choses qu'ils doivent pas. Si le club a pas envie, il leur donne pas. Moi, je trouve ça dommage. Je pense que le club devrait appartenir à la ville, ça devrait être un service public, et on devrait effectivement avoir accès à tout. Mais c'est pas le cas. Tout le monde est heureux du foot privé, du foot pourri. Donc les DNA, s'ils sont pas contents, ils ont qu'à militer pour une nationalisation du football et la mise dans le domaine public du Racing Club de Strasbourg.
Le camarade Keller.
Exactement.
Non, je suis d'accord avec ton truc, c'est la relation Racing DNA, c'est la relation équipe de France l'équipe où il y a tout à coup il y a des bisbilles ou des brouilles beaucoup plus profondes, souvent pour des conneries. Mais là, si je faisais un peu le parallèle, pendant 10 ans on a eu François Namur
qui était de sinistre mémoire.
Ouais, disons quand il y avait Ilali. François Namur n'écrivait rien de particulier, que le club était en train d'être saccagé, qu'il y avait la mort au tournant. Non, tu parlais du prochain match, tu parlais de David Ledy, je sais pas quoi. Mmh. Alors que on savait tous que la situation était gravissime. Donc là, je me suis réjoui de voir à nouveau une nouvelle team des DNA avec en plus l'arrivée de Gaudin pour les lecteurs du Barin. Ça, c'est un peu une nouveauté. Mais bon, si là on continue un petit peu dans ce genre de querelle à la con, c'est ouais, je vais pas me battre pour aller chercher les DNA chez ma mamie. Hein.
Bah, surtout que le feuilleton, donc c'est un peu Loret qui répond du tac au tac au journaliste qui lui renvoie la balle. Par contre, derrière, il n'y a pas eu ce qu'il y avait avant. Il n'y a pas eu un seul mouchard, un joueur qui balancerait que le coach fait pas ça ou qu'il y a des chouchous enfin. Ce qu'on avait à l'époque, hein, même à l'époque de la nationale, quand ça allait pas très mal, il y avait des joueurs qui balançaient un peu en sous-main. Hein. Je crois qu'après on a vu que c'était, on avait dit que c'était Sikimic qui allait balancer au DNA 2-3 saloperies pour essayer d'être titulaire le match d'après ou des trucs comme ça. Là, à part Liénard qui fait, alors ça on peut aussi en parler, le petit coup de gueule de Liénard, mais c'est encore très gentil. Hein, c'est un peu en mode conférence de presse, tout le monde, on va s'en sortir tous ensemble, on a tous parlé ensemble, on est tous copains, tout va bien, on va le faire. Mais il y a pas eu de distiller. Et pour les journalistes, c'est pas évident s'il y a pas une balance dans le groupe.
Ben après, faut que la balance, elle ait des trucs à balancer. Peut-être moi, sur ce que je vois des matchs du Racing, je dirais que globalement, à part certaines séquences ou quoi, mais l'esprit y est globalement. On l'a vu contre Rennes, les mecs ils sont battus avec leurs armes. Contre Montpellier aussi, ils se battent avec leurs armes. Le problème, c'est que les armes de Kawashima, les armes de Sissoko, les armes de quand ils sont pas à 100% et dans un bon contexte favorable, en forme. Comme on a pu le voir sur les saisons précédentes, et c'est peut-être un peu juste, quoi, d'un point de vue technique. Et je pense que, par contre, l'état d'esprit, lui, il y est. Je sens pas qu'il y a un groupe qui est contre Loret ou qui en a ras-le-bol. Ou je sens pas ça, moi, dans ce que je vois, en tout cas, sur le terrain. Je sais pas vous, mais
justement contre Rennes, ça s'est pas ressenti.
Et c'était le match où pourtant Rennes, les joueurs, s'ils voulaient vraiment lâcher le coach. Bah, c'était ce match-là. Hein, pour.
J'avais peur avant le match, mais là, j'ai pas du tout ressenti ça. Ouais.
Non, ils sont battus.
On peut enchaîner sur Rennes. Alors, ça, c'est parfait. Hein. Donc, effectivement, Rennes, au début, c'est difficile. Hein. On commence pas super bien le match, mais on arrive à ouvrir le score.
Oui.
On joue avec aussi.
Moi, j'ai trouvé qu'on était costaud au début du match. Hein. Ça ouais,
on subit déjà d'entames de match quand même. On subit plus que c'est quand même Rennes qui prend le jeu à son compte alors qu'on évolue à domicile et qui eux ils sortent un peu d'un match déjà dans la semaine à Chelsea. Donc on aurait pu croire qu'ils auraient été attentistes et on aurait pu les prendre à la gorge. C'est pas du tout le cas. C'est plutôt Rennes qui pose sous.
Ouais, je suis pas complètement d'accord. Moi, je suis un peu sur la même ligne que Rose-Croix. J'ai trouvé qu'au début, 20 premières minutes au moins, peut-être même 30. Ouais, j'exagère peut-être, mais 20 premières minutes, je trouvais qu'on avait le pied sur la balle, quoi.
Surtout les 20 dernières minutes, peut-être pas les 10 premières, ouais. Mais bon, Irène, il y a une différence d'effectifs, quoi. Hein.
Moi, je suis d'accord avec vous, hein. Sur le début de match, il m'a semblé bon. Je trouve même que, on avait 10-20 premières minutes vraiment bonnes. Et même sur les 40 premières minutes, on était bien. Enfin, moi, je trouvais jusqu'à l'expulsion, on était dans le match, quoi.
Ouais, ouais. Notamment Sissoko qui était bon, je trouvais.
J'ai envie d'être d'accord avec vous, mais on va pas aller jusqu'à dire que Sissoko était bon dans la première mi-temps, je pense.
Non,
pas
ça va trop loin.
Moi, je faisais bien attention à lui, et là, je l'ai trouvé vraiment pas mal, ouais. Avec Lala sur le côté, c'était vraiment pas mal.
Bon, donc, on ouvre le score.
Ouais, d'ailleurs, celui qui était bon, c'était Thomasson. J'ai vu une question d'Ator, là.
Vas-y.
Qui demandait est-ce que c'est à cause du retour de Thomasson que le retour de Thomasson est-il la clé du redressement du Racing?
Pour moi, c'est déjà le retour d'un bon Thomasson. Parce que Thomasson, il a quand même beaucoup joué depuis le début de saison, mais rarement, c'est vrai qu'on lui a rarement donné les clés. On l'a soit on l'a vite sorti, ou bien on l'a mis remplaçant. Enfin, parce qu'il était vraiment à chier à chaque fois. Il y avait des raisons. Alors que là, on le retrouve un petit peu entre les lignes, à faire des appels, à être disponible. Donc si notre effectif se met un petit peu pièce par pièce, ça peut marcher parce qu'on a construit déjà un duo d'attaque qu'on pressent intéressant. Et là, on retrouve le mec qui est un bon animateur pour le jeu devant. Donc, je pense aussi que Stomasson est une des clés pour le redressement du Racing.
Moi, je pense qu'il a été, de toute façon, l'an dernier, il était très très important, statistiquement aussi, très très décisif. Pour moi, il est l'une des clés du redressement. Mais encore une fois, moi, je trouve qu'il va nous apporter, s'il retrouve son niveau et sa forme, il va nous apporter beaucoup offensivement. Pour moi, la clé du redressement, elle passe beaucoup par plus de maîtrise derrière, quoi. Par plus de qualité défensive, par plus de sérénité. Il faut, j'en reviens toujours au constat de, voilà, on est dernière défense et il y a un gros, gros problème sur ce plan-là. Donc, le redressement, si on continue à être 12e attaque et à moins prendre de buts, les choses iront d'elles-mêmes un peu mieux, quand même.
Alors, attention, là, tout de suite, sérénité. Solidité défensive, je pense que tu voulais parler de Mitrovic.
Hein, oh, pas que, hein, parce que voilà, c'est un peu global. Hein. C'est vrai que son expulsion, si Macan est pas très bien placé au moment où il y a l'attaquant René qui s'engouffre, mais par contre, bon, Mitrovic, ça manque de vitesse, quoi, d'intervention, enfin de course, de rapidité. Et, donc ouais, pour moi, les deux, ils sont quand même impliqués, hein, sur ce but. Aussi bien Simakan dans son placement que Mitrovic qui est trop lent, qui intervient mal à propos, qui rate son intervention et qui fait faute un peu comme il peut de partout, quoi. Déjà, ouais, il rate le tacle, il met la main. Enfin bon,
le tacle est dégueulasse, la main, c'est n'importe quoi. D'un autre côté, il est suffisamment rapide pour que ce soit en dehors de la surface. Et en gros, il sacrifie.
Limite, mais.
Ouais, mais là, il se sacrifie. C'est ça où on se prend le but et puis jamais on. Enfin, après, c'est la fin. C'est parce que.
L'arbitre, il voit même pas la main, je pense. Hein.
Non, je pense pas.
Je suis pas d'accord avec toi, c'est Darky.
Ouais.
Parce que. Okay. Il se dit, il y a but. Il se dit, il y a but, donc j'interviens, j'annule ça. Bah non, il n'y a pas but.
Oh.
C'est quand même. Bon, c'est un face-à-face. Et c'est pas Guirassy, c'est pas forcément un mec qui va marquer là où Ajorque a loupé deux fois la semaine dernière.
Ben oui.
Il fait la faute à Kawashima.
Non, bon,
il n'est pas sorti assez vite.
Non, enfin, quand même. Pour moi, c'est le sens du sacrifice.
Tout ça.
Pour moi, c'est le sens du sacrifice. Il avait plus trop fait de boulettes quand même, Mitrovic, à part depuis les quatre premiers matchs ou je sais plus où il en faisait.
Non, mais là, il revenait bien, hein.
Mais là, voilà, à mon avis, là, c'est l'homme de sacrifice. Vraiment, c'est le, ils sont fous, quoi.
C'est si Macan, il fait la même faute, on dit que c'est pas de sa faute, quasiment.
Ouais, alors que si Macan, il...
Pour moi, la notion de sacrifice, c'est parce qu'il se jette de manière désespérée pour tenter une intervention. Mais s'il se jette à tacler comme ça et tout ça, c'est parce qu'il est très en retard.
Oui,
c'est
oui.
Que, bah, si
oui.
Le cri total et qu'en vitesse, il a plus que ce tacle un peu désespéré pour essayer de empêcher l'inévitable, mais parce qu'il est battu en vitesse et dans la course, quoi.
Oui, après, magnifique.
Fort la vitesse.
C'est magnifique, c'est le vieux cheval en fin de carrière qui, tu vois, qui jette ses dernières flammes et quitte après à être ridiculisé par la jeune garde, par Sébastien Keller et tous ses morveux. Voilà. Et c'est beau. Pour moi, c'est beau. Les combats les plus beaux sont les combats où c'est l'inverse. Les combats désespérés sont les combats les plus beaux. Donc voilà, Mitrovic.
Donc là, il y a un peu deux clans. Hein. Enfin, il y a ceux qui pensent que Mitrovic a fait une bonne faute, puisqu'en plus derrière, il a la bonne idée de blesser le buteur rennais. Oh oui. C'est bonus.
Pour moi, on est sur la clean sheet. Enfin, on est sur du.
Et il y a ceux qui pensent qu'il a fait n'importe quoi et genre il prend un rouge comme un con parce qu'il était à l'arrache.
Mais pour moi, il fait pas n'importe quoi parce que le problème, c'est qu'il est presque obligé de faire ce geste-là parce que il est devancé, parce que Guirassy va plus vite, et que ça montre juste un peu les limites du joueur où ça se paye, quoi. Mais si Macan aussi sur l'action, il est pas exempt de reproches et c'est le gros problème, c'est qu'on est très bien jusqu'à la 40e minute. Et puis d'un coup, patatras, un Simakan qui est pas là où il devrait peut-être forcément être, et puis un Mitrovic qui est pas à la vitesse sur Guirassy, boum, et voilà, et ça nous met dans une mauvaise posture où on pouvait plutôt redouter un match encore beaucoup plus compliqué qu'il ne l'a été, quoi. Même ouais, si Rennes.
En fait, Mitrovic se sacrifie en gros pour un peu sauver Simakan aussi, parce qu'il sacrifie pour tout le monde. De toute façon, c'est Jésus-Christ. Mitrovic, c'est clairement Jésus-Christ. Et par rapport à Jésus-Christ, il a un avantage, c'est que Mitrovic existe. Ce qui rend déjà le truc pas mal. Mais je trouvais Simakan qui en deuxième période, Simakan devrait nous coûter un penalty et complètement à la ramasse sur le but rennais. C'est un vrai scandale ce joueur. Hathor est pas là, Hathor est pas là, mais là j'avais envie de demander des comptes, monsieur Hathor. La dernière fois il nous vendait Simakan intergalactique. Non, vraiment.
Mais quand il se loupe, quand il se loupe, c'est vrai qu'on le voit dans les grandes largeurs. Parce que déjà à Monaco, il était vraiment pas dans le coup et bon, il y avait son histoire de future vente. Je pense que ça avait pesé. Et là, bon, à Rennes, il n'y a pas d'excuse. Il a mal appréhendé le duel. En fait, il pensait aller au duel aérien. Finalement, il se retrouve entre les deux comme un con et il est battu. Bon, et sur le but, là, je sais pas ce qu'il fait.
Non, Simakan, il est derrière le joueur, en fait.
Oui, il est derrière
pas,
le.
Il ne marque pas.
Le buteur, oui.
C'est ah, si ça, le duel.
Mais il est à 4 mètres et 3
d'ailleurs,
mètres.
D'ailleurs, le centre, à mon avis, il est pour le premier joueur, il n'est pas pour le buteur. Hein. Le mec, quand oui, il sort.
C'est un peu la faute à pas de chance.
Moi, non, je mais... trouve que, ouais. Bah, après, c'est le foot, hein, mais bon.
Ouais, c'est la faute à un marquage de merde.
Mais c'est surtout que Simakan, il n'est pas du tout sur le gars, quoi.
Mais c'est ça.
Non, mais j'ai cru que Kittel, il disait qu'il était sur le mec, mais c'est le deuxième.
Non, mais il peut parler de l'autre. Je crois que
Kittel, de l'expulsion, il est entre le duel et l'attaquant. Et donc, il peut pas.
On est 4 mètres derrière. Hein.
Oui, non, mais c'est vrai que si on dissèque l'action, oui, il aurait dû rester avec Guirassy. Comme ça, Mitrovic aurait eu rien à faire.
Ah, tu parlais de l'action, pardon, excuse-moi.
Ouais, pour l'action du rouge.
Ouais, c'est pour ça que je ne comprenais pas, je parlais du but, pardon.
Parce qu'en fait, Mitrovic, c'est un défenseur qui aime bien quand il y a un autre défenseur qui défend à côté de lui. Comme ça, lui, il peut placer les joueurs, il peut superviser. Et voilà, bénéficier de son aura. Mais Mitrovic, dès qu'il a un joueur en face, il est incapable. Donc ça, c'est quand même le problème, parce que c'est un joueur qu'on a pris avec une expérience Coupe d'Europe, avec un petit circuit en Europe, des bonnes expériences, international serbe, gros salaire, capitaine. Et alors, en fait, il se retrouve à faire des gestes débiles de mec qui se jette. Voilà, tu fais pas ça, tu te jettes pas, même si t'es à la rue.
Mais à Montpellier, d'ailleurs, on a eu très chaud. Hein, une action, à un moment, Savagnier lui chippe le ballon, enfin, dans les pieds. L'arbitre voit une faute de Savagnier.
Voilà, il aurait pu
le voir. Très peu évidente. Et il a eu du bol, quoi. Mitrovic, je veux s'en sortir là-dessus. Et ouais, de temps en temps, il nous gratifie d'interventions comme ça. Moi, sur le fait qu'il se jette, j'y vois une tentative, désespérée, mais vraiment parce que, pour le coup, il me semble complètement en retard et que c'est.
Oui, mais c'est pas la première fois. Il se jette souvent quand il tacle le Stéphanois l'année dernière, il se jette alors que le ballon il part n'importe où. Il se jette pour tacler un Lillois, mais en fait il tacle l'homme invisible. Donc il se jette sans arrêt. Et
ouais,
quand il se jette n'importe comment, c'est que tu sais pas défendre. C'est pas seulement parce qu'il peut pas être qu'il est largué ou je sais pas, mais technique défensive, on apprend à éviter de se jeter, parce que quand t'es jeté, t'es dans le vent.
Il y a plusieurs façons de pas savoir défendre. Il y a la sienne qui est grotesque et drôle à la fois et violente et tout ça. Et il y a la façon Simakan où je m'implique pas, je suis pas là, je suis 3 mètres derrière. Moi personnellement, je préfère Mitrovic parce qu'il y a une chance qu'il reparte avec la rotule du mec sous le bras et au moins ça peut rendre un service. C'est-à-dire dans un cas on prend un but, dans l'autre on prend un coup franc que Kawashima détourne magistralement.
Et ceci dit, il est moins pire et Simakan aussi que Lamine Koné de cette saison. Enfin, on peut toujours trouver des motifs de satisfaction par rapport au pire. Mais bon, on a toujours une défense, que ce soit Simakan, Mitrovic ou Koné, c'est jamais à 100% fiable, ouais. Solide, dans les marquages.
Il y a un mec qu'on pense même plus à lui en défense, c'est Djikou, qui alors lui, il disparu là le mec. Et alors une fois il accouche, une fois il est en sélection, il se blesse, on sait pas trop comment. Le mec est genre, lui il est encore moins présent que Simakan, il vient même plus au match.
Il ghost le club complètement, il répond plus aux SMS de Thierry Loré et tout. C'est l'horreur.
Et c'est dommage parce qu'on lui a reproché Saint-Etienne avec cette main où il est poussé et tout. Mais dans l'ensemble, même s'il fait des erreurs aussi, mais peut-être que de tous les défenseurs actuellement, c'est celui qui a tendance un peu le moins à se rater, quoi, quand même. en termes de fréquence d'erreur. Son absence, elle est un peu dommageable. Et puis, elle est même dommageable au milieu. Parce qu'on pourrait même imaginer Djikou en sentinelle, Aoulou peut-être plus au relais. À voir, quoi. Enfin, c'est des choses... Mais en tout cas, Djikou manque, comme Cels, comme d'autres. Voilà, il y a des petits manques en ce moment, quoi.
Surtout Cels, ouais.
Voilà. Alors, ça tombe bien qu'on parle de Cels, parce que bon, maintenant, on se remet dans le match. Donc, Mitrovic nous conserve l'avantage du score à la mi-temps, mais on sait qu'on va souffrir énormément pour la seconde mi-temps. Hein. Là, j'appelle mon dealer hein, pour avoir de la drogue pour me calmer. Hein. Ça, c'est forcément tout de suite. Donc, il me ramène 3 tartes flambées pour passer mes nerfs. Les stats impressionnantes à la fin, c'était 86-14, hein, je crois, la possession
oui. Pour
Rennes. Donc, autant dire que c'était attaque-défense, comme disaient les journalistes. Et il y a un mec qui a bien, bien fait son boulot, déjà en première mi-temps et pas mal en seconde, c'est Kawashima. Mm-hmm. Un peu l'homme du match, quasiment. Enfin, normal. Voilà.
Les mecs, ils ont 15 occasions, hein, en deuxième mi-temps, les Rennes. Et il s'en prend qu'un.
Combien de tirs cadrés? 15?
6.
C'est tir cadré?
Sur la deuxième mi-temps ou sur l'ensemble?
La deuxième.
Ah, la deuxième uniquement.
Notamment, il en sort une belle. Hein. Je crois que c'est sur une tête où il plonge à droite, là.
Ah ouais, il en sort 5.
Bon, il y a du poteau aussi.
Il y en a une qui prend. Bon, il est dessus, hein. C'est dommage. C'est peut-être même... On se dit qu'il aurait presque pu l'avoir. Mais on, par rapport à Montpellier, où franchement, on se disait Kamara, Kawashima, bon, c'est tout qui... Là, on se dit, le point du match nul, il est quand même en grande partie pour le gardien.
Ah oui, d'accord, complètement d'accord. Et je suis bingouriste, hein, donc.
Voilà, en plus.
Ouais.
Un autre mec qui est un peu au révélateur en seconde mi-temps, c'est Sissoko.
Ah.
Suite à la sortie de Mitrovic, ouais.
Voilà, parce que c'est vrai qu'on avait déjà
essayé. Nouveau stopper.
Oui, Kittel.
On a gagné un nouveau défenseur hein, avec Sissoko. On savait pas quoi en faire.
Enfin, gagner. Je sais pas si on peut parler de gain, mais.
C'est vrai qu'il y a le jeune Atorstube sur Twitter qui demande si Soko, défenseur central, une solution d'avenir.
Pourquoi pas?
Ouais. Il me semble qu'il avait, on avait déjà essayé dans ce poste, non?
Il a déjà joué à ce poste? Je sais pas.
Ça me dirait. Il me semble qu'on l'avait essayé à ce poste, c'était assez catastrophique dans mes souvenirs.
Ah, peut-être dans une fin de match pourrie avec des boulevards et des joueurs en moins aussi, ouais.
Mais là, vous l'avez trouvé convaincant là dans ce rôle?
Bah, avant la mi-temps, après on s'est pas trop rendu compte, quoi, puisqu'on était tous derrière alors.
Ouais, mais il a fait le boulot. Il s'est pas illustré par son absence comme Simakan sur le but.
comme on n'avait pas le ballon, on n'a pas pu le voir en perdre, quoi.
bien vu, ouais. C'est exactement ça.
Ouais, donc non, hein, la réponse est non pour le jeune Atorstube.
Voilà, question Mintel, la réponse est non. Qui est-ce qui. Alors, Lala aussi a été crédité d'un 6, il me semble, par les DNA ou par l'équipe. Il est passeur décisif et il a été plutôt intéressant, même si, pareil, en seconde mi-temps, il n'y a pas grand-chose à voir.
Au début de match, Lala surtout. Il avait fait une bonne première mi-temps.
Non, ouais, il était pas. Non, pour une fois, il n'y a pas grand chose à dire.
Là, ouais. Moi, on le retrouve un peu, non?
Ouais, ouais.
Ah, il va
on
mieux.
On retrouve un niveau correct.
Ouais, mais enfin, il a un débit très grand, hein, donc avant qu'il revienne dans le noir, enfin, comme on dit, positif, va falloir qu'il en fasse plusieurs des matchs comme ça.
Et je pense quand même que si on avait tous les défenseurs qui défendaient comme Lala, enfin, qui étaient au niveau de Lala en ce moment. On aurait peut-être un peu moins de soucis quand même derrière, parce que c'est de tous ceux derrière, c'est peut-être l'un des moins pires en ce moment. Je vais pas parler de meilleur, mais c'est l'un des. Il commet peut-être moins d'erreurs que nos axios ou que d'autres défenseurs en ce moment. Quoi.
De toute façon, il n'a pas de concurrent, donc.
Cassi contre Rennes, il a fait terrible.
Non, Cassi, Ross.
Contre Rennes, il y a 2-3 relances, elles vont en touche, hein.
Ouais. C'est la nouvelle coupe de cheveux, ça.
À notre niveau, c'est pas grave.
Parce qu'il y a une autre stat qui fait mal, hein, c'était vrai. Il y a la possession 80% du 80-20 ou 85-15 même. Mais il y a aussi les passes réussies, quoi. Ça a été catastrophique. C'est vrai qu'on avait beaucoup de déchets techniques. Et ça, alors c'est peut-être aussi la situation de Rennes qui était en supériorité, qui cherchait à pousser tout ça. Mais on a quand même un souci dans l'utilisation du ballon d'un point de vue précision, justesse technique. Que ce soit défensivement, on a du mal à relancer propre. Au milieu, ça manque de justesse, quoi. C'est un peu limité techniquement.
Bah ouais, on est relégable.
Ah merde. Ouais.
Non, mais on est relégable effectivement, mais il y a pas de.
Enfin, même techniquement, hein, on est à ce moment précis. Dijon gagne 2-0. Donc si je regarde mon classement.
À différence de but.
Ouais, on est ex aequo avec Dijon, mais à la différence de but, mais Dijon a un match en moins. Donc techniquement, on est peut-être même dernier, lanterne rouge.
Et qu'est-ce que vous pensez des changements de Thierry Loret? Parce que moi, je ne saurais pas. Alors là, c'est ni pour critiquer ni pour rien. C'est que dans une situation dans laquelle il est, avec à jouer à 10 quasiment 70 minutes ou 60 minutes, 65 minutes, sachant que t'as un banc ridicule en termes de qualité. Comment tu balances? Parce qu'en gros, il a changé comme d'habitude à la 60e et à la 75e, je sais plus quand il a fait rentrer Carole. Et puis à la fin, vaguement pour rigoler, il a fait rentrer deux. Comment
tu juges ça?
Bah le premier changement, c'est Liénard, non? Pour pour Ajorc. Ouais. Là, je pense qu'il peut avoir raison. Ajorc était pas terrible. Et... Pourtant, Diallo, je l'ai trouvé. Par rapport à Jorg, Diallo était meilleur, quoi. Le mec, il se bat vraiment, je trouve. Et il garde la balle. Jorg, une chance sur trois, il la perd. Bon, deux chances sur trois, il la perd. Sinon, Lienard, ouais, je pense qu'il veut le faire rentrer pour qu'il défende un peu plus et qu'il garde le ballon, quoi. Peut-être sur un coup franc, il peut peut-être faire un truc, une passe, ou voilà. Pas mal entendu, quoi.
T'as l'air bien emballé, en tout cas, ouais.
Non, sur le coup-là, Loret, il avait raison. Il a eu raison.
Mais c'est pas tard, c'est pas...
Les changements de Loret, c'est plus après la 75e qu'à la 60e, hein, en général. Hein.
Oui, d'ailleurs, il y en a un à la 75e, plus ou moins, là, non? Je me souviens plus, mais...
Ah, Carole, Lienard, plutôt, ouais, je pense.
Carole, Lienard, c'est plutôt, mais Carole...
ouais, je me souviens même plus, il a remplacé qui
Thomasson.
Ah oui, Thomasson, ouais.
Carole remplace Thomasson à la 73e.
Thomasson, il va être cramé, ouais.
Donc, premier changement, effectivement, c'est Dimitri Lienard pour Ludovic Ajorc à la 63e. Et ensuite, pour déconner, en fin de match, Aneba remplace Cassie et Shaïri remplace Diallo à la 86e.
Ouais, ça, c'était marrant. Ouais. Mais
ouais, il manque juste une entrée de Persic.
On était sûr de perdre.
Ouais, donc en gros, qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Encore une fois, c'est pas pour critiquer. Genre, vous auriez mis tout ce qui ressemble de près ou de loin à un défenseur ou à un milieu défensif juste pour essayer de tenir un zéro dès la 45e, ou vous auriez fait comme lui, ou vous auriez
non, ça se tient. Ouais.
Enfin là, c'était ambitieux de partir avec garder deux attaquants, enfin de pas densifier la défense et le milieu, et de se dire qu'on va aller chercher le deuxième but contre Rennes, qui est quand même une équipe qui joue en C1. Voilà, c'était pour moi c'était assez logique. Et puis quand on voit le banc, on avait quand même Abdoulaye Ousmane sur le banc. Persic, Waris, Zoï, moi je fais rentrer aucun des quatre.
Mais il reste Camara, on aurait pu faire rentrer Camara pour la séance de péno.
Ah ouais. Non mais ça se tenait ce qu'il a fait. Carole pour un peu densifier derrière, Lienard pour essayer de peut-être sur un allongement, un long ballon face à un Rennes qui serait assez haut. Voilà, ça se tenait. Je vois pas ce qu'il y avait beaucoup d'autres comme options avec cet effectif-là, dans ces conditions-là, à 10 contre 11 face à Rennes, quoi. C'est.
Mmh. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Bon, il y a eu le. Je vois d'ailleurs qu'on prend, on fait le premier changement après le but. Donc, on sort un attaquant et on fait rentrer un défenseur ou un milieu. Donc ça, c'est toujours un peu le cliché. Yo, mais pourquoi?
Non, le premier changement, c'est la 63e. Hein, donc,
ouais, mais c'est après le but.
C'est là le but.
C'est là qu'on se prend le but, ouais.
59e, ouais, c'est ça, tout à fait. But de Adrien Ounou sur une tête de Adrien Truffert. Donc un but 100% Adrien, hein, sauf Thomasson.
Bah, si, il a marqué avant.
Il a marqué avant.
Mais... Ouais, c'était le match d'Adrien, d'ailleurs, peut-être la Saint-Adrien, ce jour-là.
Non, mais bon, les changements sont logiques. Et c'est pas une histoire de frileux ou je sais pas quoi. Enfin, quand t'es à 10, quand tu subis comme ça, tu vas pas t'amuser à mettre, enfin, à tenter de bouleverser un équilibre branlant, mais quand même relativement stable.
Mais on subit parce qu'on manque d'ambition et qu'on est frileux, peut-être. C'est ce que diront les critiqueurs sur ce match.
Tout à fait, M. Kerr.
Non, mais je suis d'accord avec toi. Je pense aussi que de toute façon, il n'y avait pas grand chose à faire et que ces histoires d'ambition, de frilosité, enfin, faut être un peu raisonnable, je pense, par rapport au contexte, à qui on affronte, voilà.
Disons aussi, c'est une critique qui peut se tenir au cas par cas. Mais il y en a qui en font une critique globale et ça manque totalement de justesse, justement, de justesse technique.
Donc, bon, on est très contents. Ce qu'on retient beaucoup dans les commentaires d'après-match, c'est la solidarité, les joueurs qui n'ont pas lâché le point ni l'auraient. Par contre, il y a un truc là que je voulais signaler. Donc, généralement, à 10 contre 11, souvent, on compte beaucoup sur l'apport du public. Hein, à la méno, souvent, on a senti que les joueurs sont un peu galvanisés, le public pousse souvent beaucoup dans ces trucs. Et là, pour ce match, on a eu une bande-son toute pourrie, préparée par le service com du Racing. Je ne sais pas si vous avez remarqué.
Contre Marseille, déjà.
C'est le club, hein. Il y a eu en ce sens un communiqué des UB90 avant le match, très rapide, en disant que le club les avait consultés et qu'ils avaient dit qu'ils trouvaient que ce n'était pas dans l'ADN du Racing, mais que le club avait quand même passé outre. Et c'est vrai que d'avoir cette ambiance un peu plate, hein, parce que c'était un peu des chambres collées comme ça, alors que c'est vrai que souvent, je rappelle, les matchs à 10 contre 11, souvent même c'est les matchs les plus sympas, parce que vraiment la méno s'énerve sur chaque action, ça pousse beaucoup plus qu'un truc, il y a une espèce de surplus qui galvanise les joueurs, et là, bon là, ils avaient la bande-son de un peu pourrie, quoi. Enfin même complètement pourrie. Hein.
Alors, on a souvent le sentiment d'une injustice quand t'es à 10, bon là, il n'y avait pas photo sur le carton rouge, mais... des fois, tu te dis, si on met la pression, l'arbitre va siffler, va faire de la fameuse compensation, il va siffler un pénalty ou un autre rouge. Donc, je suis d'accord avec toi, Gus, il y a cet aspect du public, et bon, ça, on peut le regretter globalement. L'absence du public, c'est pas un truc qui va se quantifier en points ou je sais pas quoi, mais ça rend cette saison extrêmement piégeuse, et c'est la saison idéale pour se casser la gueule, oui.
Pour moi, le public, il a quand même un rôle à Strasbourg qui est très important par rapport à d'autres clubs où il y a moins cet engouement, cette ferveur qui pousse les joueurs et les transcende. Parce que je pense vraiment que des fois, ça les transcende. Et ouais, c'est comme le dit Kittel, c'est vraiment ça s'inscrit dans une saison où il y a plein de vents contraires, où on sent que c'est la saison galère, où même ce petit truc qui peut nous aider, même ce gros truc, on l'a pas, quoi. Et après, je sais pas pour l'ambiance factice si c'est quelque chose qui est discuté au niveau du club entre la direction, les joueurs, le staff, et de dire est-ce que vous préférez avoir une ambiance factice avec l'impression qu'il y a du public, est-ce que ça vous poussera plus, ou vous préférez un silence de cathédrale et entendre Thierry Lauré qui vous crie dans les oreilles. Donc peut-être que c'est à trouve, c'est les joueurs qui aiment bien l'idée.
Ouais, ouais, parce que je me demandais aussi, ouais. Est-ce que les joueurs, ils préfèrent avoir la sono que rien du tout,
quoi. Ben, ça serait une bonne question à poser aux joueurs. Sébastien Keller, si tu nous écoutes, la prochaine fois, tu as le droit de demander aux joueurs.
Mais les joueurs, ils vont dire non, on préfère les supporters. Enfin, je dirais, ils vont nous brosser dans le sens du poil, comme d'habitude. On n'aura jamais.
Ils vont répondre à côté.
Ouais, on va jamais avoir la vraie réponse.
Mais j'imagine que quand même, la question s'est posée entre eux. Entre qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et que ça, c'est peut-être un point qu'ils ont sur lequel ils ont eu des avis.
Ah, mais ils en ont un sûrement, mais je me.
Je vais être consulté quand même.
Je suis pas sûr. Hein. Je pense que c'est un truc très marketing. C'est parce que c'est pour que ça fasse bien. Maintenant Rennes, c'est fini. Hein. Donc là, Thierry Lauré va pouvoir pavoiser dans la presse. Hein. Peut-être que dans Hebdi ou je sais pas des. Il va pouvoir donner des interviews au fleuve. Mais il y a un match qui arrive la semaine prochaine, hein, et donc il y a une longue semaine, hein, de préparation cette fois-ci, puisqu'on va jouer dimanche et on va jouer à la Beaujoire. Ma question, c'est est-ce que Thierry Lauré est menacé en cas de défaite à la Beaujoire, sachant qu'on a gagné un match à la Beaujoire en tout et pour toutes.
En deux, non?
Hein?
Je crois qu'on est invaincu depuis le retour, hein.
Non, on a jamais, on gagne jamais là-bas.
Bah si, on a gagné.
On a perdu 1-0 la première année.
Ah oui,
quand on bat Lyon 3-2, on perd là-bas le dernier.
On s'en foutait la première année parce qu'on avait, on était déjà bon. Ensuite, on gagne le fameux match. J'étais et l'année dernière, je sais, bon, ça se trouve, on a même pas joué l'année dernière parce que
on a pas joué l'année dernière.
Voilà, parce qu'avec cette connerie de fin du championnat, si je regarde,
on n'a pas joué.
Mais non, on gagne jamais.
On s'est qualifié en Coupe de la Ligue.
Ah oui.
Ah, ça compte ça.
D'accord. Bah, on peut dire que ça compte, hein. Mais
ouais, t'as raison. Non, mais t'as raison.
On avait gagné en Coupe de la Ligue.
Ouais, 1-0.
En décembre, d'ailleurs.
Je suis sur les stades de l'excellent Racing Stub. Je vais même vous dire que c'était un but de Nuno da Costa sur une passe de Abdallah Endur, autant dire un autre temps.
Voilà.
Et donc, effectivement, bon, on avait gagné 1-0 à la 38e en 2018. Enfin, je donc, une seule victoire. Est-ce que en cas de défaite à Nantes ou est-ce qu'en cas de contre-performance, Thierry Loret est menacé?
Non. Sauf si on s'en prend 4-0, mais il partira pas avant la trêve, pour moi.
Moi, je pense qu'il est tout le temps menacé à partir du moment où les résultats suivent pas. C'est bien sûr, les Dena parlent d'un sursis. Je sais pas jusqu'où Keller pourrait le garder. Moi, j'espère le plus longtemps. Clairement, c'est ma position parce que je vois pas. Il est responsable, mais je vois pas l'intégralité des raisons qui expliquent la situation du Racing actuellement reposer sur ses épaules à lui seul. Mais par contre, pour moi, il est menacé tout le temps. Tant que les résultats suivent pas, c'est le lot des entraîneurs, quoi. Il échappe pas à la règle, je pense pas.
Après Nantes, on joue le PSG, non?
Non, il y a Metz.
Non, il y a le derby après.
Il y a Metz directement, d'accord.
Metz directement la semaine d'après à domicile. Ensuite, on reçoit. Il y a Angers ou je sais pas quoi comme connerie. Et ensuite, on finit à Paris. Donc.
Ah oui, cette histoire que ça, Paris.
Philippe Darki, toi qui lis l'avenir dans le Mar de Gévure, est-ce que tu as des infos sur le match, sur Thierry Loret?
Oui, je pense que Sébastien Keller va encore écrire des articles de merde et j'en sais rien. Non, j'en sais rien du tout. Mais je suis un peu comme Father Tom, moi. Hein. Je vois pas pourquoi on verrait Thierry Loret. Il y a rien d'autre. Déjà, il y a rien d'autre à acheter. Enfin, il y a aucun autre entraîneur.
Non, mais ça, bon, je suis pas d'accord avec ça.
Mais on n'a pas les moyens. On a les moyens de rien. Je veux dire,
Tu penses à qui?
Non, moi je pense à personne en particulier, mais ça peut exister, quoi, trouver un entraîneur.
Ouais, ça peut exister. On n'arrive pas à trouver.
Patrick Vieira est bientôt libre.
Ouais.
Mais trouver.
Ouais, je sais pas. Bravo.
Il part avec l'argent, il peut travailler gratuitement, tu sais, une espèce de contrat d'insertion.
Ouais, non, mais voilà. Donc personnellement, je pense qu'en fait, sur le match à Nantes, non, je pense pas qu'il sera menacé après. Je pense comme je crois que c'est Rostroy qui disait ou peut-être Father Tom que ça va se faire à la trêve hivernale si ça doit se faire. Ce sera une connerie et mais voilà, je pense pas que ça se fera avant.
J'ai entendu ça sera Emery.
Quoi?
J'ai entendu Emery, le mec du PSG.
C'est une blague.
C'est une blague là. C'est une blague, mais j'ai.
Il est
libre ou pas, non? Ah, il est pas libre.
Il a Real.
Marc Keller payera le transfert, ça.
La clause libératoire.
C'est une question d'argent.
Non, on va se retrouver avec Huens.
Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on va jouer à 5 derrière ou à 4, quoi? Parce qu'à 5 derrière, ça marche jamais, quoi.
Oui, mais c'est ça qu'il va faire.
De toute façon, Mitrovic sera pas là.
Tout à fait.
Bah, c'est pour ça aussi.
Du coup, on sait pas.
Du coup, s'il renvoie les SMS, t'es où?
Non, mais du coup, il va aller jouer à Marcel Saupin, donc il va rater le match.
Ouais. Hé hey les gars, je suis là, vous êtes où? Non, mais à mon avis, à ça. Ouais.
Il y aura peut-être le retour de Koné ou Cassier en défense centrale.
Oh, Jésus-Marie-Joseph,
ouais. Ouais, bah Koné, je sais pas ce qui pousserait à le revoir parce que là, vraiment, à chaque fois qu'il a joué ces derniers temps, alors on espère tous retrouver celui de l'an dernier, mais là, cette année, il y est pas du tout, quoi. Après, moi, le schéma, j'ai l'impression qu'on a essayé des défenses à 4. À 5 et que finalement à partir du moment où je crois qu'on était à 5 contre Lyon aussi non ou je confonds peut-être mais à partir du moment où on s'aligne mal sur un hors-jeu, à partir du moment où on relâche un marquage, à partir du moment où on peut être à 4-5 je dirais à 5 il y a un peu plus de compensation et un peu plus de présence s'il y a une erreur qui est produite mais c'est surtout l'attitude défensive quoi qui est importante.
Bah quand on est à ça, le milieu de terrain, il travaille, il est censé moins travailler, mais c'est pareil quoi. Moi je trouve que quand on est à 5 derrière, ça marche jamais quoi. Déjà l'année dernière, quand on n'a pas eu les résultats, on était à 5 derrière.
Après, on gagne à Brest, hein, comme ça.
Quand on a 9 défaites, de toute façon, à 4, à 5, ça ne marche jamais. Enfin, il n'y a rien qui marche.
Après, ce que Brest, ouais. C'est vrai qu'on leur en met 3, mais.
C'est un miracle, ouais. Ça. Mais on tient.
Ça cache un peu. Je vais te dire, on marque à Montpellier, on gagne peut-être le match. Hein. Je ne sais pas.
Ouais, peut-être, mais non, après.
Mais bon, moi, j'en ai marre de l'oreille parce qu'on joue à 5 derrière, quoi.
Ouais, bah c'est, le message est clair, hein, Sébastien. Ross.
C'est aussi lié à l'effectif. Hein, l'architecture de l'effectif, ça fait qu'on a beaucoup de joueurs pour jouer derrière. Au milieu de terrain, c'est pas vraiment rempli. Et moi, je me dis encore en début de saison, tu amorces la saison avec dans les buts Camara, en défense centrale Mitrovic, milieu défensif personne. Donc t'as quand même une super ossature pour commencer la saison.
Et puis on a beau dire, hein, on a Aoulou qui est venu dans un rôle de sentinelle qui a toujours manqué, puisque même quand on avait Fofana, Martin et tout ça, on avait parfois Djikou qui dépannait à ce poste, donc le manque il a toujours été là. Par contre au relais, on a perdu Martin, Fofana, et là, même si Bellegarde il est méritant, qu'il veut se battre, je pense pas qu'il ait suffisamment compensé ces départs-là, et Sissoko est pas au niveau de ses débuts au Racing, quoi. Donc on a un déficit de qualité au milieu, au relais, quoi. Enfin, le côté milieu relayeur où techniquement on a perdu en qualité et on a du mal à la compenser.
J'en profitais pour quelques questions, juste une question militaire parce que je sais que quelqu'un l'a dit, je recherche vite. Le Stubram, hein, vous avez remarqué en ce moment, je crois que quelqu'un s'est plaint.
Tu veux une question du Stub, je les ai toutes là.
Ah ouais, bah, Gabmé 87. Le départ de Fofana est pris en référence comme le déséquilibre du milieu actuel. Mais est-ce que le mal plus profond ne provient pas du départ de Judas Martin après son pénalty raté? Bon, ça, c'est un débat qu'on a déjà refait. La réponse, mon cher Gamay, le Radio Club Lyonnais, hein, les deux, enfin, c'est vrai que les deux départs n'ont jamais vraiment été compensés. C'est difficile au milieu, au Racing, puisque même pour Kittel, il n'y a pas de milieu.
Et tu peux même dire Gonzalves était un milieu relayeur.
C'est vrai.
Et en fait, donc t'as juste Persic qui a remplacé Cornier comme des Erouliane.
Quel talent, hein, Erouliane. Soutien total à Erouliane, d'ailleurs.
Oui, voilà, Erouliane qui a été exclu au dernier match pour un tacle sur Binguru Camara, mais il reviendra, hein, vous inquiétez pas. pour tous ses fans. Donc voilà, est-ce que bon, on va peut-être pas, c'est un peu loin, hein. Après, j'ai un peu évoqué, il y a Metz, hein. Metz, qui plein de jeux de mots déjà pour les journalistes et pour le Stub. Et puis bon, mais je pense qu'il est trop tôt pour en parler.
Juste une question technique. On aura le droit de revenir pour le match contre Metz ou celui-là aussi où on se fait niquer?
Alors, si j'en crois Roxana Marixinaou.
Grattez-vous, c'est ça, elle a répondu.
Non, elle a dit ça serait bien qu'il y ait des gens au stade pour mi-décembre. Et Metz, c'est juste avant.
Ah, c'est pas avant.
C'est le 13.
Voilà. Et en fait, Roxana, forcément, en bonne connaisseuse du football et du football de l'Est, s'est dit je ne peux pas faire revenir des hordes de sauvages pour ce derby qui est le plus violent de l'Est de la France. Et donc, elle a dit le lendemain, on pourra retourner au stade.
Ouais, rien à foutre. Hein, si on peut pas voir Metz.
Voilà, donc voilà. Alors,
parce qu'on n'est pas bon à huis clos contre Metz. Hein.
Voilà. Et on n'est pas bon. Si, on avait gagné le match. Non, on avait perdu.
Ton tapis vert. Oui, mais ton tapis vert ce match.
Avec Mili Vienno.
Mondragon.
Alors, ça, tous les mecs qui ont. Ouais, bref, ils ne peuvent pas connaître. Tous les autres, les gens.
Ils peuvent lire l'excellent livre.
Et voilà.
Qui a quasiment été écrit par Philippe de la Fédé, qui s'appelle 100 ans de Méno, ou je ne sais plus quoi, qui était édité par les DNA à l'époque. Et où il y a un superbe article sur le match le plus long qui s'étale sur deux millénaires, hein, donc Strasbourg-Metz. le pétard, le huis clos, la victoire sur tapis vert, magnifique, ça c'est fou. Alors ça c'est fou au Racing, il y a tellement de belles histoires que des fois on les oublie, et qu'est-ce qu'on fait quand on oublie une histoire? On écrit un livre.
Oh, ah, superbe.
Transition là. Et alors, ça tombe bien parce qu'on a, le livre a été entièrement écrit par Ross 3 en SMS, je crois, hein, c'est ça?
Non, j'ai pas écrit. J'ai écrit juste un article, je crois, deux articles sur le Stoub. Par un bleu qui a utilisé mon compte. Et le dernier, c'était un déplacement où j'étais seul avec Greg. Greg qui avait un déplacement, là.
J'espère qu'il est dans le livre, hein, qu'ils sont dans le livre.
Alors, ouais, si jamais c'est dans le livre. Mais ils m'ont pas contacté, donc à mon avis, pour les droits d'auteur,
c'est
fortement.
Un petit peu de public reportage. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont lu ici?
À Kittel, je crois.
Ouais, bah moi je l'ai relu pour essayer d'enlever les petites coquilles, mais il y en aura sûrement encore. C'est comme quand on casse un œuf, on a toujours un peu de coquille dans son omelette. Donc disons le parti pris, c'est plutôt historique, hein, vous l'aurez deviné, c'est.
Attends, dis-nous le titre du livre déjà, parce que on est parti là en roue arrière sans.
Crimerie et châtiment aux éditions Vademecum. Et pour 15 euros.
Pas cher, hein, pas cher.
Ouais, franchement.
Avec les frais de port.
Ben, frais de port offert, ouais, apparemment.
Je viens des Vosges, c'est compliqué. Aller en Alsace en ce moment, c'est prendre des risques. Les frais de port sont offerts.
Si même tu commandes chez l'éditeur, je crois.
Oui, et pour moi il est dispo que chez l'éditeur. Alors moi j'en ai commandé 50, hein, personnellement, mais c'est pour les mêmes pour mes cadeaux de Noël. Donc faites comme moi, hein. Et puis bah c'est bon, faut aussi payer le studio et tout ça. C'est difficile, hein. On peut plus se rémunérer sur les boissons.
Ouais, tu déjà en ligne. Et sinon courant décembre il sera disponible dans les librairies et kiosques. Donc, au lieu d'acheter les DNA, vous achèterez Crimerie et Châtiment.
Il fait 284 pages, non? De mémoire, je ne sais plus.
Oui, il y a beaucoup de phrases, mais ce qui est bien, c'est que tu n'es pas obligé de lire de la première à la fin. Tu peux lire des petits épisodes, des petits. C'est une compilation d'articles.
Ah, c'est génial, ouais.
Il y a des images aussi.
Alors, il fait 272 pages.
À 272, tu vois, 12 pages près.
15 x 21 cm, et je suis déjà très alléché par l'ITEC Lovec 02 Racing. Ce papier-là m'a l'air très bon.
Oui, bah, il y a plus côté tribune, hein, pourtant c'est bon, et Giga, c'est l'orfèvre en la matière. Non, les côtés tribune, on en a sauvé in extremis.
Ah ouais, mais là,
c'est bah, le fameux Lovec. Ouais.
Parce que ça, Lovec, c'est écrit par qui? Par ID, non?
Par ID, oui. Ouais. ID, ouais. Je l'ai relu il y a pas longtemps et il est vraiment excellent. Ça permettait de se replonger dans cette période un peu folle où on était tout aussi mauvais qu'aujourd'hui, mais sauf qu'on jouait la Coupe d'Europe en même temps.
Ouais, et comme c'est quand même un déplacement qui a marqué, je crois qu'ils sont 19 à y être allés ou?
Oui, c'est ça, ouais. Ils étaient... Donc, il y a un mec qui soi-disant y est allé que personne n'a vu. C'était un peu la légende à l'époque. Il y avait un mec qui avait écrit un truc comme quoi, genre une espèce de récit du voyage, mais personne ne l'avait vu sur place, alors qu'il n'y avait vraiment pas grand. Donc ça fait partie de la légende aussi. Comme j'avais dit, le format est condensé, nerveux, tel une interview de Thierry Loret. Est-ce qu'on va faire un petit prono pour Nantes, peut-être pour partir, ça fait longtemps, j'avais un petit tour de prono. Moi, je pense que ça va être un bon vieux 0-0 des familles. Maintenant, on n'avait pas fait de nuls. Maintenant, on va faire que des nuls jusqu'à Nantes.
Ok. Moi, je pense 1-0 pour Nantes. Tranquille. Simakan qui couvre pas et Kawashima qui l'a fait rentrer de l'arrière de la tête.
Pour moi, 2-0 Nantes.
2-0 Nantes. Merci, Kittel. Sympa. Ça donne envie. Ross, Razor Tom.
Pour moi, 2-0 pour Strasbourg. Parce que déjà, Kawashima va revenir. En plus, c'est le spécialiste des clean sheets à Nantes. Et puis, très franchement, bon, j'ai un peu vu Nantes contre Marseille et puis cette saison. Et je pense qu'il y a un coup à jouer. D'ailleurs, ils sont très mal. C'est un match à 6 points et ça va être l'amorce du redressement. J'y crois.
Alors moi je dirais 2-1 pour le Racing.
Oh.
Mais, magnifique. Tu nous donnes les buteurs ou tu les gardes pour tes fans
les buteurs, d'ailleurs, pas pour me vanter, mais au dernier match à Montpellier, j'ai perdu 3 buteurs. Là, Ajorc et Diallo, j'ai eu les 3. Ah. C'était pour le côté Winamax. sinon, les buteurs, Diallo.
Diallo doublé,
ouais.
Diallo doublé. Ben, parfait. Pendant ce temps-là, je vous annonce quand même que Dijon vient de mettre un 3e but à Nice. Donc s'ils en mettent encore 2, on est vraiment en lanterne rouge égalité.
Heureusement que c'est pas la dernière journée.
Qui va se faire en premier, Loré ou Vira?
Je pense que Vira, vu le budget et le recrutement qu'il a fait, il risque de durer moins longtemps que Thierry Loré. Ou alors un échange Thierry Loré, Patrick Vira.
Ah, on pourrait peut-être récupérer. Ah non, il est plus à Nice. Comment il s'appelle notre joueur maudit là?
Sacco?
Ouais. Dans le deal.
Non, il est prêté, je crois. Ouais. Est-ce qu'on ferait pas juste, on va se quitter, mais peut-être une question Minitel.
Oui, bien sûr.
Et puis on verra.
Au hasard, ou il y en a une qui te plaît particulièrement?
Non, pas du tout, je les ai pas lues.
Très bien. Moi non plus, hein, je les ai compilés. Ok, alors. Ah, panique, c'est où mon bordel? Là. Ok, alors j'y vais au pif. Hein. Si Loré ne finit pas la saison sur le banc, qui pour le remplacer? Arsène Wenger, est-ce un fantasme ou il y aurait une chance? Alors, avant que vous répondiez de manière professionnelle, je voudrais juste dire, les gens qui fantasment Arsène Wenger, je veux dire, même les pires des mots-clés sur Pornhub et tout ça, j'ai jamais vu Arsène Wenger. Donc, comme fantasme, déjà, c'est vraiment super chelou. Allez-y, c'est @stseb67 sur Twitter.
Alors bon, dire qui c'est compliqué. Moi, je suis aussi totalement d'accord. Arsène Wenger ne viendra jamais au Racing, ou alors peut-être manger une saucisse avec Marc Keller, et encore pas sûr.
Complètement.
Non, moi, j'y crois pas non plus. Je pense que jamais il viendra. Et si jamais il devait y avoir un miracle ou un 0,01% de chance que ça se produise, c'est pas une année où le Racing est en opération commando pour un maintien. C'est absolument pas ça, quoi. J'y crois pas un seul instant. Peut-être 0,01% de chance, mais beaucoup plus tard. Enfin, pas beaucoup, beaucoup plus tard non plus, mais pas sur une saison comme ça.
Non, mais jamais ever. Enfin, il a même pas voulu mettre de l'argent dans le club quand ça coûtait 10 francs d'avoir la moitié du club. Le mec, il en a rien à foutre. C'est des conneries, hein. Faut être réaliste.
Mais le sentimentalisme.
Il a eu 10 fois l'occasion de montrer qu'il avait un attachement au club autre que des mots. Et il l'a jamais fait. Moi, j'y crois pas du tout.
Voilà, c'est clair. Est-ce que quelqu'un est par contre convaincu de la venue de Arsène Wenger au club?
Non, moi, j'y crois pas non plus.
Bon, sa question, c'était aussi qui pour remplacer Loré, hein.
Non, mais là, il y en a pour une heure. Alors, c'est facile. Thierry Loré qui va s'auto-remplacer.
D'accord. Et sinon, je tiens juste à dire que on a Puerto Banus qui est ravi que tu aies fait une dédicace à Gabin la dernière fois, quand même.
Est-ce qu'il a une question pour qu'on y réponde dans 15 jours?
Bien sûr. On a plein de questions et on n'y répondra pas dans 15 jours, sauf celle de Puerto Banus.
Voilà. Et ben voilà. Rendez-vous dans 15 jours. Merci à tous et surtout.
Allez, Racing.
Allez, Racing.
Allez, Racing. Allez, Racing.